fous, je m'ennuie. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui?
Une bonne idée sortie?
C'est super.
L'interview du jour.
48 FM.
Bonjour Lionel Astier.
Bonjour.
Nous vous recevons pour parler d'Élise, la colère de Dieu, un second spectacle qui s'intéresse à nos guerres de religion et à l'histoire cévenole du début du XVIIIe siècle. Il est actuellement en tournée dans tout le département, on en reparlera à la fin de cet entretien. Mais d'abord une première question, quel est votre rapport à l'histoire?
En tant que cévenole et élevé dans une culture protestante, les camisards ont nourri mon enfance. Donc, et j'ai ça en commun avec Gilbert Rouvière, le metteur en scène. Donc on faisait du théâtre ensemble et on se disait tout le temps qu'il fallait qu'on fasse quelque chose sur les camisards. Voilà. Ensuite, on l'a fait, donc on a fait ce spectacle comme on le voulait, dans la nature, pour évoquer un petit peu les assemblées clandestines des protestants à l'époque. Et après, l'actualité nous a rattrapés. On s'est aperçu que l'actualité était en résonance et le public nous le disait. Et on n'a pas dit qu'on l'avait pas voulu, mais c'était vrai, on l'avait pas voulu. En fait, c'est-à-dire, c'était un coup de bol, même si c'est pas un coup de bol que ce soit un drame qui se répète. Mais ça a commencé comme ça. Et ensuite, dans Élise, la colère de Dieu, dans cette deuxième pièce, qui n'est pas qu'une suite, parce que cette fois-ci, la résonance avec l'actualité, je l'assume, et je l'ai vu en l'écrivant, je l'ai vu même s'accentuer encore, et aujourd'hui encore, l'actualité, enfin, ça colle à l'actualité, quoi. Et c'est ça mon rapport à l'histoire, c'est-à-dire, je le disais, quand la fiction s'intéresse à l'histoire, il faut qu'il y ait un intérêt, mais au début, il n'y en avait pas. Au début, c'était juste une histoire de gamin qui voulait raconter son histoire de camisard, mais maintenant, oui, cette histoire est très particulière, elle est unique, cette guerre des camisards, et c'est vrai qu'elle contient toute notre histoire d'aujourd'hui, la violence d'État, les violences religieuses, les migrants, ça s'appelait les fugitifs à l'époque, mais c'est exactement la même histoire, les libertés qui foutent le camp, qui sont fragilisées, même quand on parle des meurtres de dessinateurs, de spectateurs de concerts, ça a à voir avec tout ça. Donc c'est vrai que voilà, on est porteur de ça.
Parce que sans divulguer le spectacle, voilà, on peut en quelques lignes rappeler un peu l'histoire donc de Élise, la colère de Dieu.
Ben, Élise, la colère de Dieu, je suis obligé de parler de la première. La nuit des camisards se termine par le déclenchement de la guerre avec l'assassinat de l'abbé Duchella au pont de Montvert. Et avec surtout toutes les autorités qui pensent qu'ils n'y jamais ne vont y aller, jamais ils ne vont se révolter, parce que ce sont des paysans, c'est pas une révolution, ce sont des paysans et que des paysans. Il n'y a aucun encadrement, ni militaire, ni bourgeois, ni rien, c'est pas comme la révolution. Et ils y sont allés, voilà. Donc la nuit des camisards se termine par le basculement dans la guerre, et Élise, l'intrigue est 4 mois plus tard. On n'est pas encore dans le gros de la guerre, mais on est dans les échauffourées, on brûle les églises, on tue les prêtres, on détruit les églises, on détruit les hôtels, on les poursuit, on les appelle pas encore d'ailleurs camisards à ce moment-là, on les poursuit, mais la guerre se prépare, voilà, la guerre se prépare, et on est dans... C'est pour ça que je dis que ça peut aussi parler de maintenant, parce qu'on est dans cette espèce de chaos, est-ce que cette guerre va arriver, ou est-ce qu'au contraire, non, c'est fini? Parce qu'il y a eu une bataille où on a tué quelques camisards et on se dit, on les a décapités, on a exposé leurs têtes sur le pont d'Anduze, devant l'entrée de 4 ou 5 villes, en disant voilà, les troubles sont finis. C'est faux, les troubles ne sont pas finis, la guerre arrive. Et il y a cette espèce de... Au début, dans la nuit des camisards, la peur était du côté des protestants. Là, la peur est des deux côtés maintenant, puisque les catholiques se font aussi, s'aperçoivent que ça, la résistance s'organise. Donc, ouais, on est dans cette sorte de chaos avec un avenir complètement incertain. Est-ce que la guerre va nous toucher? À quel point elle va nous toucher? Comme un petit peu ce qu'on vit en ce moment. Voilà, on est dans un monde un peu chaotique, pour moi, un peu désespérant même, c'est mon point de vue. Donc voilà, c'est ce rapport avec... Sans arrêt. Et ça change tout le temps, ça change tous les jours, et ça se rapproche tous les jours de la pièce.
Vous l'avez expliqué, si ça avait été juste raconter l'histoire avec un grand H, on aurait fait juste une conférence avec des dates. Là, l'idée, c'est ancrer avec des personnages. La petite histoire, c'est celle d'une famille qui subit cette histoire, qui la vit et qui est proactif aussi.
C'est surtout celle d'une mère, en fait. La révocation de l'édit de Nantes vient interdire la religion protestante, démolir les temples. Donc, en fait... comme les protestants, enfin ce qu'on appelle les nouveaux convertis maintenant, sont les nouveaux catholiques, puisqu'en principe il n'y a plus de protestants en France, sauf que comme les conversions ont été obtenues par la persécution, il n'y a pas de sincérité de conversion. Donc on pense que cette génération-là est perdue, le pouvoir et met ses espoirs dans les enfants dont il soigne l'éducation. Mais c'est cette résistance qui commence, puisqu'il n'y a plus de temple, qui commence, c'est les cultes familiaux, ça commence dans les maisons, la nuit, les volets fermés, les fenêtres, voilà, tout ça. Et petit à petit, ça ne suffira pas, c'est-à-dire que le peuple a besoin de se reconstruire, de redevenir un peuple sénol, sans compter qu'il y a aussi, ça c'est le côté religieux, il y a une culpabilité de leur part qui est très forte. Dans les premières assemblées au désert, même dans beaucoup d'assemblées, cette culpabilité était énormément présente, c'est-à-dire qu'en fait, on est coupable d'avoir craint pour son corps, alors que les dragonnades, c'était pas une rigolade, mais on est, et de ne pas avoir peur de Dieu, qui lui peut tuer le corps, mais peut tuer l'âme aussi. Et donc, ils veulent retrouver leur âme. Et je dirais même que dans le danger que représentait le fait de se rendre à une assemblée et d'y assister, parce qu'on pouvait, si on était capturé, on pouvait aller, pour un homme, il allait aux galères, pour une femme, il allait en prison, pour le prédicant, il était exécuté, il y avait une forme de repentir. Dans ce risque d'y aller, c'est-à-dire une manière de payer voilà, sa faute. Voilà. Donc, voilà.
Oui, vous parliez de double éducation, c'est ça ?
La double éducation, c'est, en fait, c'est que... Et c'est un peu c'est l'histoire d'Élise, mais qui n'est pas forcément consciente. Elle pense qu'il faut préserver la religion de ses pères, la religion qui est celle de son éducation, de ses aïeux. Donc elle pense que c'est une bonne chose, effectivement, de continuer à la transmettre aux enfants. Sauf que les enfants, et ce sont des très jeunes enfants à l'époque, ils ont les futurs camisards, ils ont 5 ans, ils ont 6 ans, 7 ans, ils vont à la messe. Ça c'est la loi. C'est la loi. Il faut aller à la messe. C'est la religion de l'État. Ils vont à la messe. Ils vont à l'école catholique. Et la nuit, la famille les reprend en main pour leur insuffler la religion de leur cœur. Donc effectivement, dans ces petits cerveaux, ça crée des choses. Voilà. Et en plus, on leur fait le récit des persécutions aussi. Donc ça fait beaucoup. Donc ils sont dépositaires de cette souffrance. Et arrivés effectivement à l'âge adulte, oui, ben, ils ont entendu tous les soirs la Bible, tous les soirs. Ils la connaissent par cœur, ils vont prophétiser, ils vont prendre des armes et ce sont des hommes en colère. C'est pour ça que ça s'appelle la colère de Dieu, hein. C'est une colère générale. Ce sont des hommes en colère. Et à la fois, Élise se trouve devant ces deux choses-là, c'est-à-dire d'avoir voulu respecter ses aïeux et ses pères en leur transmettant, parce qu'elle pensait que c'était bien que la mémoire survive de leur religion et tout ça, et à la fois elle a créé des hommes en colère qui vont préférer mourir que ne pas exercer leur foi comme ils l'entendent.
On vient de parler du fond, et sur la forme, c'est un spectacle qui se joue en extérieur, en pleine forêt. Ça compte pour vous ?
Ah ben oui, on est c'est Gilbert Rouvière, le metteur en scène, qui s'occupe de ce choix. Et effectivement, on essaye d'avoir des lieux retirés, parce que je pense que c'est important. Et je le disais aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est du théâtre qui va aux spectateurs, et non pas des spectateurs qui vont dans le théâtre. Alors, il y a une histoire d'accessibilité, mais je suis moins persuadé que pour certains, ce sera toujours plus facile d'aller voir un spectacle au pied du Cosméjean que de franchir les portes d'un théâtre. Parce que je pense que le théâtre a un peu perdu sa vocation populaire depuis. C'est normal, hein. C'est normal, ça bouge le théâtre, et peut-être même aussi son rôle rassembleur. Et on retrouve un peu ce rôle-là, parce qu'effectivement, on le voit, on le constate, quand on voit 500 ou 600 personnes arriver dans des endroits comme, je disais, le pied, le, puis au pied du Cosmé-Jean, ou à Champ-Domergue, ou dans des lieux comme ça, vraiment perdus. Hein. Moi, je dis, c'est pas du plein air, c'est vraiment de la pleine nature. Hein. On est vraiment dans des endroits loin de la lumière des villes et tout ça. Le spectateur, il est dans une immersion, c'est-à-dire qu'effectivement, il est dans un endroit, assister à une histoire comme ça, assis dans des fauteuils en velours, avec des rideaux et des murs de théâtre, ça n'a pas du tout la même valeur que d'être là dans la nature, qui est sans âge, elle, c'est-à-dire qui peut être la même que celle qui a 300 ans, il y a déjà ça. Et puis, alors pour les acteurs, c'est physiquement, c'est éprouvant, parce que le plein air demande une énergie complètement différente, et bien en plus il n'y a pas de coulisses, il faut disparaître dans les bois, revenir, enfin bon, et il y a la chaleur, et il y a tout, hein, il y a tout ça, il y a les costumes à porter, voilà.
Merci Lionel Astier, je rappelle le titre de la pièce que vous avez écrite et que vous venez présenter, Élise, la colère de Dieu, mise en scène par Gilbert Rouvière. La première a eu lieu à Florac le 18 juillet dernier, mais il reste encore des dates lausériennes. Et le 3 août à Meyruès, le 4 à Vébron ou encore le 11 août à Champ-Domergue. Toutes les autres infos, dates et billetteries sur le site élise-lacolèrededieu.com.